partager avec vous ce matin. Donc, je repensais à ce besoin de revenir aux choses fondamentales, à ce qui fonde en fait notre compréhension de qui est Dieu. Et ce livre de l'Ecclésiaste est, je trouve, une brique importante dans la façon dont nous comprenons le monde, dont nous comprenons notre place devant Dieu. Alors, donc je me suis inspiré d'une prédication de Florent Varac là-dessus. Et j'espère que, voilà, j'espère que alors c'est un texte qui est quand même dur, qui nous secoue un peu, qui remet en cause une certaine façon qu'a notre monde de se comprendre. Et j'espère que justement le fait que ce soit un texte qui nous remue, qui nous fait remettre en question ce qu'on pense être normal, eh bien que ça va nous aider à avancer dans notre vie avec Dieu. Pour introduire, je vous lis un morceau de chanson. Alors je l'ai pas, j'ai pas voulu la diffuser. Pour choquer personne. Mais donc je vous lis, peut-être que vous allez reconnaître peut-être les paroles, hein, c'est une chanson profane. Donc ça commence comme ça. Je n'ai pas peur de la route, faudrait voir, faut qu'on y goûte. Des méandres au creux des reins, et tout ira bien. Le vent l'emportera. Ton message à la grande ours et la trajectoire de la course, à l'instantané de velours, même s'il ne sert à rien, le vent l'emportera, tout disparaîtra. Alors, vous voyez qui c'est qui chante ça? Ça vous dit rien? Le vent l'emportera, Luc, non?
Oui, c'est la chanson, mais le nom, c'est le chanteur, c'est le nom de la chanson.
Ouais, alors bon, ok, c'est Noir Désir, d'accord? C'est Noir Désir qui chante ça. Noir Désir, donc c'est Bertrand Cantat qui a écrit ça. Alors évidemment, donc Bertrand Cantat, vous le savez peut-être, il a tué une femme, d'accord? Il a été en prison pour ça pendant de longues années. Sa vie a été balayée, on peut le dire comme ça. Donc cette chanson qui dit effectivement, voilà, le vent l'emportera, tout disparaîtra. Et ça met en avant ce que l'Ecclésiaste va nous partager sur ce caractère passager de la vie, le fait qu'on n'arrive pas à garder et que finalement tout nous échappe. Donc je l'ai dit, hein, donc ce texte va nous c'est un texte qui secoue. On parlait de vent. Et effectivement, je pense que ce texte, c'est comme un grand coup de vent qui disperse la fumée, la buée, qui disperse la paille pour laisser finalement ce qui a de la valeur et qui nous permet d'y voir plus clair. Alors, je le dis déjà, en fait, hein, ce texte va mettre en avant une tension entre ce qui est parfait et ce qui est imparfait, entre ce qui est de notre présent et ce qui est de notre espérance. Alors, il le met pas... En fait, il présente une partie de cette tension, et ça va être à nous, finalement, de trouver l'autre côté qui contrebalance, en fait, ce que ce texte nous dit, en tout cas, dans cette introduction. D'accord. Évidemment, je ne vais pas lire tout le texte, je vais me contenter des 11 premiers versets qui présentent une facette de cette tension qui se trouve dans nos vies par rapport à ce qui reste et à ce qui a de la valeur. Alors je lis donc parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi à Jérusalem. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Oui, vanité des vanités, tout est vanité. Que reste-t-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil ? Une génération s'en va, je vais même le lire dans cette traduction. Voilà, une génération s'en va, une autre vient, et la terre est toujours là. Le soleil se lève, le soleil se couche, il se hâte vers l'endroit où il devra de nouveau se lever. Le vent souffle vers le sud, puis tourne vers le nord, il tourne et tourne encore, et reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont se jeter dans la mer, mais la mer n'est pas remplie. Les fleuves ne cessent de couler toujours vers le même endroit en suivant leur cours. Tout est en travail, plus qu'on ne peut le dire. L'œil n'est jamais rassasié de voir, l'oreille n'est jamais remplie de ce qu'elle entend. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si on se dit « tenez, voici quelque chose de nouveau », en fait, cela a déjà existé dans le temps qui nous ont précédés depuis longtemps. Seulement, on ne se souvient plus de ce qui s'est passé autrefois, et il en sera de même pour ce qui se produira dans l'avenir. Ceux qui viendront après nous n'en auront aucun souvenir. Ok, donc on s'arrête là. Donc, quand on lit ce passage, la première chose qu'on se demande, c'est est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vrai ce que l'Ecclésiaste nous dit ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ça correspond à ce qu'on trouve ailleurs dans la Bible ? Et puis peut-être aussi, est-ce que ça a encore un sens aujourd'hui ? S'il a écrit ça à l'époque de Salomon, ça fait très longtemps. Beaucoup de choses ont changé depuis. Alors est-ce que ça a encore un sens ce qu'il écrit ? Alors évidemment, la première chose qu'on se demande, c'est qui c'est qui écrit ce texte ? Donc il n'y a pas de consensus vraiment là-dessus. Donc le texte nous dit, les premiers versets sont « Voici ce que dit le maître, fils de David, roi à Jérusalem. » Fils de David, roi à Jérusalem. Donc, et il va se présenter comme étant un homme rempli de sagesse, donc ce maître, rempli de sagesse, de richesse, etc. Et donc, forcément, cette référence-là nous parle de Salomon. Nous parle de ce fils de David dont l'Écriture nous dit qu'il a été un roi justement rempli de cette sagesse. Alors c'est pas évident de savoir si effectivement c'est bien Salomon qui a écrit ce texte-là d'abord il se nomme pas. Il ne se nomme pas, il ne dit pas « Moi, Salomon, je vous dis ceci ou cela », comme il le fait, par exemple, comme on peut le retrouver dans les proverbes. Et ce texte, en fait, nous parle depuis Salomon, en fait. Il nous parle depuis l'expérience que pourrait avoir Salomon. Donc effectivement, certains voient ça comme étant soit effectivement Salomon qui a écrit ce texte à la fin de sa vie, soit quelqu'un qui a repris le personnage de Salomon et ce que l'on en connaît, ce qu'il a représenté, et nous parle depuis justement cette réalisation, depuis ce que finalement Salomon a accompli et fait comme choix dans sa vie. Et donc ce texte est une conclusion de vie, d'accord ? C'est comme ça qu'il se présente, comme ce qu'un homme qui a vécu beaucoup de choses, qui a expérimenté beaucoup de choses, ce qu'il peut en dire à la fin de sa vie. Alors, effectivement, ça vaut quand même la peine de se demander, ben, ce Salomon, qu'est-ce qu'il représente exactement? Qu'est-ce que c'est que cette expérience que l'Ecclésiaste va mettre en avant? Donc, je fais juste d'ailleurs une petite parenthèse, puisqu'on parlait des mots en introduction, l'Ecclésiaste, hein, donc l'Ecclésiaste alors, ou le Coëlète, hein, c'est ce que nous disait Yann la dernière fois, donc Coëlète dans le texte hébreu. Bon, c'est pas un mot très, c'est pas un mot très, très commun en fait. Hein. Certains pensent même que peut-être c'est l'auteur qui l'a inventé. Et donc même ses auditeurs en fait probablement savaient pas trop de quoi il parlait exactement quand il se présentait comme le Coëlète. Donc on a traduit ça par l'Ecclésiaste, donc parce que c'est la racine, c'est celui qui rassemble, celui qui parle à l'assemblée. Donc Ecclésiaste, donc comme Ecclésia en latin. Grec. Grec, ok, autant pour moi, grec. Donc Ecclésia, donc le rassemblement, ce qui nous voilà. Donc Église, hein, Ecclésia, ce qui rassemble. Donc Salomon. Donc Salomon, alors fils de David et de Bathsheba, d'accord. Donc on sait le deuxième fils, hein, de ce couple-là, puisque le premier qui est issu d'un adultère, finalement, donc Dieu va faire mourir cet enfant, et Bathsheba aura un deuxième fils, qui sera celui que Dieu va choisir pour succéder à David. Le début de la vie de Salomon est particulièrement remarquable, parce que Dieu va lui demander ce qu'il veut. D'accord ? Un truc qui arrive jamais, mais c'est arrivé à Salomon. Dieu va lui dire, bon, maintenant, voilà, dis-moi ce que tu veux et je te le donnerai. Et Salomon va répondre en disant, accorde-moi donc maintenant sagesse et connaissance afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait gouverner ce peuple si grand ? Donc Salomon ne va pas demander ni richesse, ni pouvoir, ni force militaire, ni femme, ni... Enfin voilà, ce n'est pas ça qu'il va demander. Il va demander la sagesse pour pouvoir conduire le peuple devant Dieu. Et Dieu va lui répondre en lui disant, voilà, puisque c'est là ce que tu me demandes, donc ça on le trouve dans le livre des rois, puisque c'est ce que tu demandes, et que tu ne demandes pas pour toi une longue vie, et que tu ne demandes pas pour toi de la richesse, et que tu ne demandes pas pour toi la mort de tes ennemis, mais puisque tu demandes pour toi de l'intelligence afin d'être attentif au droit, voici, j'agirai selon ta parole, je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu avant toi, et qu'il n'y aura après toi personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, aussi bien la richesse que la gloire, de telle sorte qu'il y aura pendant toute ta vie aucun homme parmi les rois qui soit semblable à toi. Et si tu marches dans mes voies en observant mes prescriptions et mes commandements, comme a marché ton père David, je prolongerai tes jours. Donc, une parole de bénédiction incroyable sur Salomon. Et en effet, on trouve ça toujours dans un roi. La postérité garde de Salomon, c'est que, donc je lis ça dans un roi au chapitre 10, « Le roi Salomon surpassa tous les rois de la terre par sa richesse et sa sagesse. » Tous les gens de la terre cherchaient à le rencontrer pour se mettre à l'écoute de la sagesse que Dieu lui avait donnée. Donc, des richesses énormes, en fait. Donc, le livre des rois nous parle de tout le commerce qu'il fait, les montagnes d'argent, finalement, et d'or qui vont arriver dans Jérusalem, la croissance du commerce, de la connaissance qui va y avoir sous le règne de Salomon, la gloire finalement d'Israël. Mais le texte, en même temps qu'il nous présente cette gloire et cette richesse, eh bien va aussi nous porter un regard finalement très très sombre sur Salomon, Parce que Salomon, contrairement à son père David, ne va pas rester fidèle, ne va pas rester fidèle à l'Éternel. Et donc on trouve ça un peu après ce texte qui nous dit, qui nous parlait de la richesse et de la gloire de Salomon. Donc on trouve ça dans 1 Roi au chapitre 11. Donc le roi Salomon eut beaucoup de femmes étrangères, donc aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidonites, des Idéitites. Elles venaient de ces nations païennes au sujet desquelles l'Éternel avait dit aux Israélites, « Vous ne vous unirez pas à elles, elles ne s'uniront pas à vous. » Donc bon, après, donc, il explique qu'il a eu 700 femmes et 300 concubines. Et donc le texte nous dit au verset 4, « En effet, lorsque Salomon fut devenu vieux, ses femmes détournèrent son cœur vers des dieux étrangers, de sorte que son cœur n'appartint plus sans réserve à l'Éternel son Dieu, à la différence de son père David. Il pratiqua le culte d'Astarté, la déesse des Sidoniens, etc. » Donc, cette richesse et cette gloire de Salomon, la Bible nous la présente sous un jour, on va dire, double. Donc, d'une part, effectivement, cette gloire finalement rejaillit aussi sur Dieu, puisque tous savent que c'est Dieu qui a donné la sagesse à Salomon et qui lui donne sa bénédiction. Donc il y a cette bénédiction de Dieu. Et en même temps, dans cette bénédiction, dans cette abondance, eh bien, il y a la graine de la chute et de la compromission, finalement, et du fait d'avoir un cœur qui n'est pas entier pour Dieu. Et donc Salomon, c'est ça. C'est cette double réalité qui, moi aussi, me pousse à penser que ce n'est pas forcément Salomon qui a écrit ce texte à la fin de sa vie, puisque le texte nous dit qu'à la fin de sa vie, Salomon n'était pas entier pour Dieu. Donc Salomon va régner pendant 40 ans, et finalement, sa désobéissance, les conséquences de sa désobéissance n'arriveront que pour ses enfants, d'accord, puisque c'est à partir de son fils en fait que donc le royaume de Juda et celui d'Israël vont être séparés, d'accord. Donc alors voilà. Donc voilà depuis qui parle l'Ecclésiaste, depuis quel personnage l'Ecclésiaste parle de son expérience, de sa vie, de la sagesse, de la gloire, des richesses et aussi de la chute qu'il a vécu. Et donc l'Ecclésiaste nous dit « Vanité des vanités, tout est vanité. » Alors, en hébreu, en fait, hein, donc ce « vanité des vanités », donc on voit bien qu'il y a une répétition. Cette répétition, c'est un superlatif. C'est une façon de mettre l'emphase sur ce mot donc hébreu, alors « evel ». D'accord, donc, alors qu'on traduit par vanité, il y a plusieurs façons évidemment de traduire ce mot. Hein. Donc ça a parfois un sens très concret comme de la fumée, de la buée, du vent. D'accord, hein. Certaines traductions disent vanité des vanités, tout est vanité et poursuite du vent. Donc d'autres encore disent voilà, tout part en fumée, rien ne sert à rien, rien ne mène à rien. De la fumée, tout est fumée, tout part en fumée. Ou alors dans la Nouvelle Bible Second, voilà, futilité complète, tout n'est que futilité. D'accord ? Donc cette expression de qui dénote une frustration. Une frustration du sens. D'accord ? Rien, on ne peut rien saisir. Donc rien n'est stable. Rien ne dure. Rien non plus n'est prévisible. Rien n'est garanti. Donc cette observation que on ne peut pas avoir on ne peut pas avoir une vie qui soit pleinement satisfaisante. D'accord ? Donc, la constatation de cette frustration de ne pas pouvoir maîtriser ce qui se passe. Et donc, il va décliner, en fait, finalement, comment cette frustration se manifeste dans la vie. Quel avantage l'homme retire-t-il de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre est toujours là. Salomon, donc, ou le Qohélète, qui tire le bilan d'une vie, constate que rien ne reste. Qu'est-ce qui reste de ta vie? De l'argent, ok, de l'influence, de l'amour donné, eh bien tout ça disparaît comme de la fumée. Et on peut retrouver cette idée dans le livre de Job, par exemple, qui lui aussi, à un moment donné, fait le bilan de sa vie au milieu de la souffrance qui l'accable, et qui dit, voilà, nu je suis sorti du ventre de ma mère, et nu j'y retournerai, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, et que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, on commence sa vie en marchant à quatre pattes. On arrive péniblement à marcher sur deux jambes et petit à petit, on va vers une vie où les forces nous abandonnent et on repart à la poussière. Les cimetières, par exemple, nous permettent de mesurer cette dimension de l'existence humaine. Il suffit de se promener dans un cimetière pour se rendre compte que la plupart des noms qui sont là, quelle qu'ait été leur vie, quelle qu'ait été leur gloire, eh bien tous ces noms sont inconnus. Les soldats qui ont donné leur vie pour la patrie il y a maintenant 70-80 ans, leurs noms, même s'ils sont dans les nécropoles des cimetières militaires, voilà, leur sacrifice et leur nom ont disparu dans l'histoire. La gloire on peut penser à la gloire des hommes politiques. Qui se souvient du nom des ministres, des présidents? Éventuellement, on va réussir à se souvenir des noms des présidents pendant un peu plus longtemps, mais tous les ministres, tous leurs noms, eh bien, plus personne ne les connaît, à moins de se plonger dans des livres d'histoire bien, bien précis. Donc toute la gloire que les hommes accumulent et qui semble si importante au cours de leur vie, eh bien, il suffit d'attendre quelques années pour se rendre compte que tout ça a disparu. Alors là, je peux déjà commencer à faire un parallèle avec ce que Jésus ou Paul vont nous dire de la vie. Quand Jésus nous raconte cette parabole, un homme a construit sa maison sur le sable. Un homme a construit sa maison sur le sable. Et quand le vent et les flots sont venus, eh bien, sa maison a été balayée. Alors qu'est-ce que c'est que cette maison qui est balayée? Eh bien, quand on lit ce texte de l'Ecclésiaste, on peut se dire, toutes nos maisons, tout ce que nous construisons, tout ce qui est autour de nous, tout ce que nous bâtissons, au bout du compte, tout ça, c'est du sable. Tout ça, c'est de la fumée, et tout ça disparaîtra, quelle que soit la qualité de la construction que vous êtes en train de faire, que vous avez fait, eh bien, tout ça disparaîtra. Dans le village de mes grands-parents, il y avait un château. Un château qui a été construit vers l'an 1000, par là. Bon, maintenant, il reste quelques pierres, quelques murs. Donc, je présume que quand ce château a été construit, ça devait être quelque chose d'incroyable et de magnifique. De plus solide, de ce qu'il y avait probablement de plus solide dans la région, etc. Eh bien, ok, en attendant suffisamment longtemps, toutes ces belles pierres se retrouvent par terre. Donc le sable, tout ce qui nous entoure finalement est fait de sable qui au bout du compte se délite. Et Jésus continue en nous disant, mais l'homme sage, lui, a bâti sa maison sur le roc. Sur le roc. Et alors, évidemment, on sait que ce roc dont parle Jésus, c'est lui. C'est lui qui est le rocher qui dure et qui ne se détruit pas et qui résiste aux épreuves. Après, on peut aussi se demander, cette maison qui a été construite sur le roc, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que cette maison construite sur le roc ? Et finalement, l'Ecclésiaste va nous aider aussi à répondre à cette question-là. Bien sûr, nous construisons sur le Christ, mais finalement, qu'est-ce que nous construisons ? Alors, ce texte-là ne nous répond pas directement à ça, mais en continuant un petit peu dans l'Ecclésiaste, et peut-être qu'on le fera plus tard, on voit que l'Ecclésiaste met en avant la beauté de l'instant présent, la beauté de vivre ce que Dieu nous donne aujourd'hui. Et donc, je pense que oui, cette maison que nous construisons sur le roc, qui est le Christ, eh bien, c'est notre vie, tout simplement. C'est les moments que nous vivons avec lui. Tous les bonheurs, toutes les peines, toutes les joies, toutes les souffrances que nous vivons avec lui. Eh bien voilà, c'est ça, cette maison, c'est ça qui a de la valeur, finalement. Mais je continue. Donc le texte poursuit en nous parlant d'une autre frustration qui est celle de la routine. Le soleil se couche, il se hâte vers l'endroit où il devra de nouveau se lever, le vent souffle vers le sud, puis tourne vers le nord, il tourne et tourne encore, et reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont se jeter dans la mer, mais la mer n'est pas remplie. Les fleuves ne cessent de couler toujours vers le même endroit en suivant leur cours. Tout est en travail. Plus qu'on ne peut le dire, l'œil n'est jamais rassasié de ce qu'il voit, l'oreille n'est jamais remplie de ce qu'elle entend. Donc là, l'Ecclésiaste nous décrit un cycle sans fin de choses qui se répètent encore et encore. Le vent, comme le vent qui tourne. Et donc ce cycle sans fin, et donc vide de sens. Et alors, il prend l'image de la nature en nous montrant le cycle des jours qui se répètent et des choses et des saisons qui reviennent, des années. Donc voilà, ce cycle de la nature. Bien sûr, on retrouve ce cycle aussi dans nos vies. On se lève tous les matins pour aller travailler. On prend du temps pour manger, on travaille, on fait des efforts, on mange, on est fatigué, on se couche. Le lendemain, on recommence, on prend un peu de vacances, etc. Donc cette routine qui est notre vie à tous, avec plus ou moins de bonheur, mais malgré tout, un cycle qui se répète tout au long de notre vie, on va recommencer cette routine parce que simplement on vit comme ça. Il faut bien se nourrir, il faut bien travailler, il faut bien se reposer, et donc on recommence cela sans cesse. L'œil ne se rassasie pas de ce qu'il voit, l'oreille de ce qu'elle entend. On vit dans une société de divertissement et toujours de nouveaux films, de nouvelles musiques sont publiés et de nouveaux livres sont écrits. On les lit et on passe à la suivante encore et encore, et on n'est finalement jamais rassasié de ça. Mais au bout du compte, rien ne change fondamentalement là-dedans. Et bien sûr, face à cette répétition de la vie, beaucoup se tournent vers une échappatoire. Et bien sûr, on pense aux drogues, on pense à l'alcool, on pense au sexe, on pense à... Il y a plein de façons différentes d'essayer de sortir de cette routine qui peut devenir un carcan. Et cette pensée cyclique comme étant une malédiction, on le sait bien, la pensée bouddhiste est complètement construite autour de ça. Un cycle sans fin de malédiction qui se répète, de souffrance duquel on ne peut pas sortir à moins de faire des efforts extraordinaires. Donc voilà ce que donc l'Ecclésiaste nous présente de la vie. Et alors là aussi il faut prendre un petit pas de recul parce que la Bible n'a pas du tout cette pensée cyclique. La Bible nous présente la vie comme une progression, comme d'abord une succession de choix devant lesquels chacun d'entre nous est placé, et finalement une progression vers le salut. Donc, la pensée biblique, elle est construite sur cette idée que nous naissons, mais que nous allons finalement vers notre Créateur. D'accord ? Notre Créateur est présent tout au long de notre vie, et finalement nous allons le rencontrer pour être jugé ou finalement pour être sauvé. Et c'est comme ça qu'on perçoit notre vie chrétienne. Malgré tout, ce texte de l'Ecclésiaste, justement, donc je vous ai dit qu'il y avait une tension. Et donc pour moi, ce texte, il est intéressant parce qu'il nous oblige. Il nous oblige à regarder finalement notre vie telle qu'elle est. Pour qu'on ne se fasse pas d'illusions sur ce que nous sommes en train de vivre. Nous sommes en train de vivre cette vanité, cette futilité, cette répétition de gestes qui en eux-mêmes n'ont aucun sens. Nous sommes en train de vivre ça. Et malgré tout, et donc, voilà, donc ce texte nous oblige à regarder ça. Nous oblige à regarder ça pour nous permettre justement de nous poser la question de, mais dans tout ça, qu'est-ce qui me donne du sens? Et au bout du compte, ce qui donne du sens à tous ces gestes qui n'en ont pas, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu au milieu de tout ça qui fait que le sens peut survenir. Alors on continue avec ce texte. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alors ça, c'est une phrase hein, qu'on retient. Rien de nouveau sous le soleil. Et la première chose, peut-être que en réaction à cette phrase-là, c'est que on va se dire oui, mais quand même, c'est pas vrai. On vit dans une société, d'accord, depuis les Lumières, où l'idée de progrès est devenue centrale, d'accord. Effectivement, la pensée, on va dire que la pensée dans le antique, disons, ou ancienne, ou je ne sais pas, enfin, en tout cas, j'ai envie de dire au Moyen-Âge, c'était effectivement dans cette, dans une société qui stagnait et qui voyait simplement le cycle de la nature, ben, pensait que effectivement tout ce qu'on arrivait à faire, c'était à reprendre ce qui avait été fait avant pour essayer de s'en souvenir le mieux possible. Et donc nous, notre façon de penser, elle est sortie de ça. Et on se dit, mais alors peut-être que l'Ecclésiaste, finalement, il est obsolète. Il est obsolète, peut-être. Bon. Il faut aussi se rendre compte que cette idée de progrès, typiquement, l'Ecclésiaste l'a vécu lui aussi. Lui aussi a vécu il a vu les progrès de l'agriculture. Il a vu, alors évidemment, à une vitesse bien moindre que la nôtre. Hein, on le sait, hein, notre société depuis deux siècles, donc le progrès, enfin la vitesse à laquelle les choses changent, la technologie change, est très grande. Malgré tout, l'Ecclésiaste lui aussi l'a vécu. Il a vu ses progrès s'accumuler, pas forcément au cours de sa vie, mais il a vu les techniques changer. Lui-même, Salomon, le texte nous dit que Salomon lui-même a été un de ceux qui a participé justement à la croissance du savoir. Ça a été il a été sage aussi dans le domaine scientifique et dans le domaine de la connaissance. Donc ce que l'Ecclésiaste met en avant, c'est pas tellement que rien ne change au niveau de la technique. Alors là, je vais juste lire un passage d'un livre de Jacques Ellul qui médite sur l'Ecclésiaste. Donc on n'a pas cessé de faire des progrès, et bien sûr l'Ecclésiaste le sait. Des progrès pas aussi rapides que les nôtres, mais aussi fondamentaux pour l'avenir de l'homme, et pourtant il dit ce qu'il dit. C'est qu'assurément, il ne vise pas ses progrès, il ne parle pas de science et de technique, il ne parle pas d'instruments, il parle de l'homme, donc comme il le montre au verset 8. L'Ecclésiaste, donc, ce qu'il met en avant, c'est que même si les techniques changent, l'homme, lui, au bout du compte, l'homme, lui, ne change pas. Quand on essaie de réfléchir alors à notre société moderne, à tout ce qui a changé dans notre société, on peut se dire que oui, par exemple, dans notre société post-moderne, les libertés individuelles ont pris une place énorme. On a la liberté de choix pour nos propres vies est bien plus grande que ce que nos ancêtres ont pu vivre avant nous. On est à l'ère de l'information, notre capacité à nous relier les uns aux autres et sans commune mesure avec celle qu'ont vécu nos ancêtres. Et pourtant, quand on regarde la conséquence de cette liberté, en particulier, on peut voir que cette liberté, elle nous fait surtout perdre nos repères. J'écoutais il n'y a pas très longtemps des articles sur le genre, d'accord, sur le fait que de plus en plus maintenant des hommes et des femmes, des jeunes disent oui, mais je veux pouvoir choisir qui je suis, homme ou femme ou autre chose. Cette idée que cette liberté que j'ai, s'étend à la définition de qui je suis. Et on retrouve là, donc cette nouvelle liberté qui est la nôtre, finalement, elle reprend une vieille idée du gnosticisme, par exemple, qui disait que finalement, seul l'esprit est important et que le corps n'a pas de valeur. Et on retrouve cette idée repackagée, finalement, dans cette pensée moderne que ce que je suis est indépendant de ce qu'est mon corps. Alors que la Bible nous dit que nous sommes à la fois corps et esprit, et que les deux sont définissent l'être humain. Donc cette nouvelle liberté, eh bien, se traduit surtout par le fait que de plus en plus de jeunes et d'adolescents, eh bien, ne savent tout simplement plus qui ils sont. J'ai dit aussi que on était à l'ère de l'information. Eh bien, on voit encore que l'information, donc qui se partage à des niveaux jamais atteints, finalement, partage beaucoup de futiles, beaucoup de, encore une fois, beaucoup de fumée, beaucoup de mensonges. Hein. On est en plein dedans en ce moment sur les fake news et d'arriver à déterminer ce qui est vrai et ce qui est faux dans tout ce qui est partagé. Les célébrités qui naissent comme des champignons. Mes enfants me racontaient il n'y a pas très longtemps le cas d'un jeune il y a quelques semaines qui a publié quelques vidéos qui l'ont rendu super célèbre et qui s'est retrouvé avec plusieurs centaines de milliers d'abonnés à sa chaîne vidéo parce qu'il avait fait des vidéos humoristiques. Alors je saurais même pas dire comment ce jeune s'appelle, mais bon, voilà. Donc des célébrités qui naissent et qui disparaissent. Donc on voit bien que au bout du compte, toutes nos nouveautés, toutes ces technologies qui ont tellement évolué, tellement changé, finalement, ne changent pas l'homme dans ce qu'il est. Et la façon dont les hommes vont se servir de ces nouveautés, eh bien, est finalement toujours la même. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des belles choses qui sont faites avec ces nouvelles technologies, mais toutes ces belles choses, elles encore, ne sont finalement que de la fumée. Et au bout du compte, ces nouvelles technologies ne trouvent de valeur et de sens qu'à travers la façon dont nous nous en servons et la façon dont nous arrivons à mettre Dieu au centre de ce que nous expérimentons et de ce que nous vivons. Dans ce il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc l'Ecclésiaste continue en nous disant on ne se souvient plus de ce qui s'est passé autrefois, et il en sera de même pour ce qui se produira dans l'avenir. Ceux qui viendront après nous n'en auront aucun souvenir. Donc on a déjà évoqué cette dimension-là du souvenir et de ce qui reste. Une façon de s'en rendre compte, c'est peut-être d'essayer de se rappeler les noms de ceux qui nous ont précédés. Je pense que ici, si je demande qui connaît le nom de ses parents, tout le monde y arrivera. Est-ce que vous connaissez le nom de tous vos grands-parents? Les prénoms de tous vos grands-parents? Oui. Est-ce que vous connaissez les prénoms de vos arrière-grands-parents? De vos arrière-grands-parents? Hein, moi, j'en connais un. Bon, donc on voit bien à quelle vitesse finalement ça va. D'accord ? À trois générations, quatre générations, et nos prénoms sont oubliés. On ne se souvient pas de ce qui est venu, de ce qu'il y avait avant nous.
On va oublier ton message aussi ?
Probablement, c'est sûr. J'ai oublié tellement plus de messages que ceux dont je me rappelle. C'est bien sûr. Ces paroles sont emportées par le vent, même si elles vont être enregistrées sur YouTube. YouTube, je ne sais pas, d'ici 100 ans, ce qu'il en restera. Probablement pas grand-chose. Donc pour conclure sur cette introduction, donc évidemment, j'ai abordé que la surface. Il y a beaucoup de choses. Peut-être que Yann, un jour, voudra reprendre cette étude-là. Pour moi, donc, ce texte-là, je l'ai dit en introduction, c'est un texte qui nous remue dans notre façon de voir le monde. Mais pour moi, c'est aussi un texte qui est plein d'optimisme. Alors, pas forcément dans ces paroles-là, parce que ces paroles-là commencent effectivement par balayer des illusions. Je pense que il y a un livre qui s'appelle « Le bûcher des illusions ». Et pour moi, ce texte-là, c'est un peu ça. C'est un peu un bûcher. Ça brûle. Ça brûle beaucoup des illusions qu'on pouvait avoir sur notre vie, sur notre société. Voilà, il y a beaucoup de choses sont brûlées dans ce texte-là. Et le texte de l'Ecclésiaste continue, évidemment. Et donc, comme je l'ai dit, finalement, au bout du compte, ce qui va mettre en avant, c'est la valeur de la présence de Dieu dans nos vies. Alors d'abord, une première chose peut-être quand même, c'est que ce texte n'est pas nihiliste. D'accord ? On pourrait penser que donc, le nihilisme, hein, d'accord, c'est un courant de pensée qui dit, bon bien voilà, donc il n'y a pas de sens. Et donc s'il n'y a pas de sens, si tout est absurde, à ce moment-là, il n'y a pas non plus de morale. D'accord ? Il n'y a pas de système de valeurs qui reste. Tout on devient finalement libre de choisir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Ce texte-là n'est pas un texte nihiliste, parce que l'Ecclésiaste va placer Dieu au centre, finalement, de tout ce qui a été brûlé, de tout ce qui a été détruit, finalement. Ce qui va rester, c'est la place de Dieu et la place que nous lui donnons. Donc c'est pas un texte qui pousse au nihilisme, mais c'est un texte qui d'abord nous pousse à accueillir la frustration humaine, notre propre imperfection, l'imperfection du monde dans lequel nous vivons, et nous pousse à accepter cette imperfection. Et la Bible, il y a d'autres passages dans la Bible qui nous poussent à faire ça. Donc je vous ai parlé qu'il y avait une tension. Et bien sûr, on peut penser par exemple à cet encouragement de Christ qui nous dit « Votre Père céleste est parfait, soyez parfait. » Donc cet encouragement à rechercher la perfection, parce que la perfection est en Dieu. Et donc nous sommes poussés vers cette perfection. Ce texte de l'Ecclésiaste, lui, au contraire, nous dit, voilà, regardez, rien n'est parfait. Dans vos vies, tout disparaît, tout se détruit, tout est futile, les motivations profondes des hommes, tout ça est tordu et frustrant. On retrouve cette mise en tension dans le livre de Romains, par exemple, où Paul va nous parler de la création qui est soumise à la loi de la fragilité. D'accord ? Où Paul va nous rappeler que nous vivons dans un monde où le Seigneur nous promet le salut, nous promet une communion parfaite avec lui, nous promet la perfection, mais nous vivons dans un monde qui est imparfait. Et nous devons l'accepter pour justement éviter de poursuivre quelque chose que nous ne pouvons pas atteindre. Et donc, on voit bien là qu'il y a cette tension entre ce qui nous est promis, ce vers quoi nous devons tendre, et en même temps la réalité que nous devons confronter. On dit souvent que les chrétiens vivent en dehors de la réalité, vivent dans un espèce de monde imaginaire où ils se raccrochent à ce qui leur est promis pour plus tard et finalement gâchent leur vie maintenant. C'est complètement contraire à la pensée biblique. À aucun moment, justement, nous ne devons quitter du regard l'imperfection qui est la nôtre. nous sommes effectivement les pieds dans la réalité, dans ce qui est futile et vain, qui nous entoure, qui fait partie de nous, qui fait partie de notre vie. En ayant conscience de cette futilité, nous pouvons à ce moment-là voir et rechercher ce qui a effectivement de la valeur et mettre cette valeur au bon endroit et au bon moment. La deuxième chose donc, que ce texte de l'Ecclésiaste nous pousse à faire, c'est à apprécier l'instant présent. Donc l'Ecclésiaste, il reviendra plusieurs fois. Nous vivons des moments de joie, des moments de bonheur. Et finalement, ce que nous devons faire, eh bien, c'est nous saisir de ces moments de bonheur. Là aussi, je reprends un morceau du texte de Hélule. À ce point de convergence, le passé est oublié par l'homme et l'avenir est impénétrable. Donc à ce point de convergence naît la première leçon morale de la sagesse de Coëlette. Il ne reste à l'homme que le présent. C'est le présent qu'il faut vivre, et il le redira sans cesse. Pas de fuite vers dans le souvenir, ni dans les lendemains glorieux. Aujourd'hui, tu as à être ce que tu es, et c'est tout. Donc cet investissement, finalement, dans le présent. Alors, évidemment, si on s'arrête là, on a l'impression d'entendre une espèce de manuel de bien-être intérieur ou quelque chose qui se rapprocherait, par exemple, oui, du bouddhisme. Mais évidemment, cette présence, cet investissement dans le présent, pour l'Ecclésiaste, ne trouve de sens que parce que dans le présent, eh bien, Dieu est présent. Il ne s'agit pas de ressentir des choses pour être mieux. Il s'agit de prendre conscience qu'aujourd'hui, Dieu est présent dans ma vie, qu'il me donne à vivre des belles choses avec les autres, des belles choses avec la nature qui est autour de moi. Toutes ces belles choses que le Seigneur me donne, il me les donne aujourd'hui. J'ai oublier ce qui était avant. Je ne sais pas, effectivement, ce qui sera devant moi. Quelle part de joie et de douleur sont devant moi, je ne le sais pas. Mais aujourd'hui, je sais ce que Dieu me donne. Et je peux, justement, en être rempli de joie, de bonheur, de reconnaissance, parce que je le vis aujourd'hui avec Dieu. Donc, et l'idée, encore une fois, c'est d'être ancré dans la réalité. De refuser, comme le dit Hélule, de refuser la fuite dans le passé ou dans l'avenir, mais d'être complètement présent avec avec Dieu, aujourd'hui et maintenant.
Avec Dieu, l'éternité, c'est le présent tout le temps.
Voilà. Et donc, bon... Donc je vais m'arrêter là, mais donc cette quête du sens qu'on trouve dans ce texte de l'Ecclésiaste, donc cette quête du sens, eh bien nous la trouvons finalement dans la prise de conscience que c'est au bout du compte Dieu qui maîtrise le sens parce qu'il maîtrise effectivement, parce qu'il maîtrise le temps. Donc on a parlé du fait que rien n'était nouveau dans ce que l'homme vivait. Mais malgré tout, ce qui est fondamentalement nouveau dans le monde, je vais dire que c'est le Christ. Donc l'Ecclésiaste qui a vécu 1000 ou 1500 ans avant le Christ, et nous, aujourd'hui, 2000 ans 2000 ans après, eh bien, la nouveauté dans le monde, c'est la croix. La croix qui est placée presque à mi-chemin entre nos deux temps,